Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. C'était la dernière phrase du dernier couplet du chant que nous avons prononcé après la première lecture. C'était une demande que nous faisions à Dieu de nous aider à observer sa loi. Il me semble que Jésus répond à cette demande dans le passage que nous venons d'entendre. Il nous indique bien le chemin qui doit nous conduire au royaume des cieux. Dès le début de son intervention dans son commentaire, il précise l'exigence. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La justice, cet ajustement permanent de notre conduite de vie en correspondance avec la volonté de Dieu. Pour les scribes et les pharisiens, cette justice était d'observer d'une manière rigoureuse les commandements qui avaient été promulgués au temps de Moïse, au moment de l'alliance que Dieu contractait avec son peuple. Conditions difficiles à remplir, mais souvent présentées sous une forme d'interdit. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, etc. Et voilà que Jésus se situe en face de cette loi ancienne, de sa première alliance, et de ses commentateurs. Cela, il prend position. On vous a dit, et bien moi je vous dis. Ce n'est pas une séparation, une opposition, c'est une autre manière de voir, de lire, de comprendre la volonté de Dieu exprimée dans ses commandements qui peuvent sembler rébarbatifs au départ. Oui, Jésus amène non pas une autre loi, mais il donne un nouveau sens à la loi qui demeure, et même qui va demeurer dans tous les moindres détails. Aucun iota ne sera supprimé, dit-on précédemment dans le passage. Voyons comment il interprète au moins trois de ses commandements pour nous aider à réfléchir, afin de prononcer un choix libre dont parlait le Siracide dans la première lecture. Avant tout meurtre délibéré, Jésus remonte aux racines. D'une manière profonde qui a donné naissance à certains meurtres. Il fait allusion à ces racines lointaines, quotidiennes, petites au départ, la colère, l'insulte, la diffamation, mais tendances qui peuvent dégénérer et qui conduisent exagérément à ce résultat du meurtre. Nous sommes tous témoins, lorsque nous les pratiquons parfois, des paroles blessantes. Saint Jacques en parle sans cesse dans sa lettre. Des gestes aussi blessants. Et cette semaine, nous venons d'expérimenter même l'usage des vidéos qui peuvent démolir des gens. C'est une autre manière de tuer. Mais les racines sont là, dans des petits gestes parfois, des petites paroles, mais qui sont une sorte et qui conduisent au meurtre total. Le deuxième exemple, là il faut faire attention parce qu'il faut resituer dans l'époque de Jésus. Avant que tout adultère soit consommé, il va aux racines, qu'il appelle la convoitise, le regard. Convoitise qui consiste à désirer, posséder un bien d'autrui. Car à l'époque, la femme était le premier bien de l'homme. Donc c'est dans ce sens-là, tu ne prendras pas la femme de ton mari, de ton frère. Nous y reviendrons sur cette expression tout à l'heure. Oui, regard, convoitise, pensée peuvent conduire à trahison, au manque d'honneur vis-à-vis d'un frère. Quant au serment, il s'est encore plus catégorique. À l'époque, les serments avaient comme but de rendre crédible toute parole. Alors on rajoutait un tas d'ajouts. Je le jure sur la tête de ma mère, je le jure, on allait le dire, sur la tête du Seigneur. Là, Jésus est catégorique. Il ne doit pas y avoir de serment frelaté, diminué, camouflé par un tas d'expressions. Votre oui doit être oui, votre non doit être non. Et il ajoute en plus, ce qui est en plus vient du mauvais, que je traduis le malin, le menteur. Tout serment frelaté est un mensonge qui veut tromper un frère. Effectivement, j'insiste sur ce mot « frère » qui se trouve au plein milieu du récit. Ces trois exemples que Jésus prend montrent que tout homme est lésé par des paroles blessantes, par des convoitises malhonnêtes, par des mensonges. Tout homme doit être respecté, doit être honoré dans notre manière de vivre. C'est dans ce sens-là qu'ils doivent vivre les commandements. D'ailleurs, la Bible ancienne nous montrait bien, à la suite des 10 paroles de l'Alliance, il y avait tout un livre consacré à la vie sociale. Tout geste malhonnête n'est pas simplement un péché contre Dieu, mais une atteinte aussi contre nos frères, les hommes. Comment dégager l'essentiel de cette révélation? Il me semble que dans ce passage d'aujourd'hui, nous avons deux révélations. Une révélation de Jésus lui-même sur lui-même. Et ensuite, une révélation comment nous-mêmes nous pouvons accomplir la loi. Jésus n'est pas un fossoyeur de l'ancienne alliance. Tout à l'heure, je le disais, l'alliance demeure, même avec tous ses détails. Il nous fait passer de la lettre à l'esprit. Il nous invite à user de réflexion. Il fait appel à notre conscience et à notre conversion de regard. Jésus ne parle pas en législateur. Il n'apporte pas un nouvel mode de vie formatif. Il l'intériorise. La proposition, il élargit les perspectives. Il nous fait entrer en nous-mêmes la parole de Dieu par la réflexion avant la décision. Il se présente comme l'interprète autorisé de Dieu. Car cette affirmation qu'il prononce à chaque fois, « Eh bien, moi je vous dis », il parle au nom du Père, dont il partage l'autorité. Il n'y a pas mieux que le Fils pour expliquer la pensée du Père. Ensuite, sa fonction principale, c'est d'intérioriser, d'actualiser, de personnaliser ces relations que nous devons avoir envers Dieu d'une part, et nos relations avec nos frères les hommes. Il nous fait reposer notre conduite sur deux impératifs aujourd'hui. Le refus de la violence, par la violence, par l'imposition, par l'obligation. Et la deuxième référence, il faut donner sa propre vie pour le bien des autres. C'est ce qu'il vivra lui-même dans sa passion, à la violence de la passion, il ne répondra pas par la violence, mais par le silence. Et enfin, il donnera sa vie pour le salut de tous. C'est bien ce que nous évoquons chaque dimanche à la consécration, quand le prêtre nous dit, il proclame, corps livré, sang de l'Alliance nouvelle, versé pour la multitude. Voilà le mystère que nous célébrons, qui est l'application pratique de notre pratique de l'accomplissement de la loi. Que dire maintenant ? Je ne dirai pas aujourd'hui de questionnaire. Je transformerai plutôt en une prière de supplication, en m'inspirant de l'épître aux Galates, qui est le livre par excellence, qui commente la liberté de la pratique de la loi. Seigneur, aide-nous à réfléchir pour une meilleure compréhension de ta parole. Aide-nous à remettre en cause nos motivations profondes, nos intentions, nos décisions. Aide-nous à prendre notre responsabilité personnelle pour que nous posions des actes libres, tout en prenant les risques conséquents. Tout cela peut se résumer dans une autre phrase de cette fameuse lettre aux Galates. La loi entière verra son accomplissement dans une seule parole unique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, et un peu plus loin, la même épître ajoute, vous ne serez plus soumis à la loi, mais vous serez conduits par l'Esprit. Oui, voilà bien comment le Seigneur peut nous aider par son Esprit, à accomplir, c'est-à-dire à perfectionner notre conduite vis-à-vis de la parole de Dieu. J'ai commencé par une citation du psaume 118, je termine par le même psaume, c'était le refrain que nous avons formulé. Heureux ceux qui marchent selon la loi du Seigneur.